Alors, donc aujourd'hui, on parle, donc après les trois premiers cours, on a parlé en général des sacrements, les sacrements par rapport à l'Ancien Testament, les sacrements, ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, et puis les sacrements et le lien avec l'Église. Et donc cette fois-ci, on attaque un peu plus spécifiquement chaque sacrement. Et alors aujourd'hui, on va parler des sacrements d'initiation. Alors on va en faire que deux sur trois, parce que l'Eucharistie étant un grand sacrement, on va lui consacrer le dernier cours. Ce qui déjà, à mon avis, je ne sais pas très bien comment on va faire en un cours l'Eucharistie, mais bon. Et donc, on va aujourd'hui se focaliser sur le baptême et la confirmation. Alors, dans un premier temps, on va voir pourquoi le baptême et la confirmation. Donc, un peu avec les sources, qu'est-ce qui se dit dans la Bible, comment ça s'est fait, comment ça a été préfiguré, etc. Et pourquoi est-ce que le baptême est une nécessité. Et puis ensuite, on passera à une partie sur un peu plus le contenu, qu'est-ce qui se passe pendant le baptême, parce que c'est assez intéressant de voir le déroulé, tout ce que ça nous dit sur ce qu'est le baptême et la confirmation. On parlera aussi de pourquoi la confirmation, est-ce qu'on a deux sacrements, un sacrement, puisque ça c'est un sujet de discussion en général. Et puis dans la troisième partie, ce sera plus sur la grâce, quels sont les fruits du baptême et de la confirmation. Alors, pourquoi le baptême et la confirmation? Donc on a d'abord dans l'Ancien Testament, et le début du Nouveau Testament, on a des préfigurations de ce qu'est le baptême. Alors déjà, on peut penser à la circoncision, il n'y a pas un baptême avec de l'eau, mais la circoncision, c'est en fait le signe de l'appartenance au peuple élu. Et donc, c'est ce qui marque l'alliance dans l'Ancien Testament entre Dieu et les hommes, enfin, et le peuple juif. Elle était effectuée 8 jours après la naissance, donc Jésus l'a subi, on l'a fêté. Elle était fêtée le 1er janvier jusqu'au calendrier de 69 et maintenant elle est fêtée plus tard. J'ai un doute. Elle n'est pas fêtée. T'as quand même là.
L'évangile est toujours le même.
Oui, c'est ça, t'as toujours l'évangile. Bon. Merci les spécialistes.
C'est pas le 3 janvier, le Saint-Nom de Jésus.
Oui, mais bah, ça pourrait être ça, parce qu'effectivement, on donne le nom, mais c'est pas que... Ouais. C'est pas exactement la circoncision. Mais enfin, bon, en tout cas, on en parle pendant le temps de Noël, ça, c'est sûr. Et donc, c'est en le sens qu'elle montre l'alliance entre Dieu et le peuple juif. En ce sens-là, elle est une préfiguration du baptême, qui est le fait qu'on devient du peuple de Dieu. Il y a une autre, et même dans la circoncision, donc le côté très concret et très humain, et aussi montre aussi une dimension spirituelle qu'on peut prendre en compte. Et on en retrouvera des traces quand on en parlera un petit peu plus loin de la discussion avec Nicodème en Jean 6:3 sur la nouvelle naissance. Donc il y a cette idée quand même que la circoncision, c'est la deuxième naissance ou la naissance en tant que peuple de Dieu. D'autre part, dans la circoncision, il y a de l'effusion du sang, ce qui évoque aussi une approche sacrifice, réalité douloureuse, qui accompagne la recherche de Dieu. Et c'est une petite préfiguration du baptême, qui est aussi une plongée dans la mort et la résurrection du Christ, même s'il n'y a pas de côté douloureux, enfin, quoique, avec de l'eau froide, ça peut être assez douloureux, mais bon. J'avais des baptêmes hier de 5 bébés pendant la messe et il y en avait un qui a bien hurlé. Donc je ne sais pas si c'était douloureux. En tout cas, il n'était pas content du tout. Alors, le baptême des prosélytes. Donc, il y avait aussi des baptêmes donc, c'est à l'époque de Jésus. Ceux qui n'étaient pas descendants d'Abraham, donc qui n'étaient pas du peuple juif et qui voulaient entrer dans l'Alliance, dans le judaïsme, étaient soumis à un rite, dont un bain rituel, un baptême. Et ensuite, il y avait la circoncision. Donc, il y avait déjà une forme de baptême, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui une forme de voilà, d'entrée dans le peuple de Dieu, mais pas enfant. Après, on a le baptême de Jean. Donc là, on est dans le Nouveau Testament. Alors, le baptême de Jean-Baptiste, il présente plusieurs caractéristiques. D'abord, il apparaît comme étant unique et non réitérable. Ce n'est pas explicitement dit. Mais ça a l'air d'être le cas, c'est-à-dire que c'est un grand baptême de conversion, on a l'impression que c'est une seule fois. Il est reçu, donc on ne se baptise pas soi-même, donc il est reçu, c'est Jean-Baptiste qui baptise. C'est pas quelque chose qui est, qu'on se donne à soi-même, contrairement aux ablutions juives, ou même au baptême chez les Esséniens, où en fait c'est la personne qui elle-même allait dans la piscine, les piscines qui étaient dans les ensemble essénien comme à Qumran, et donc c'était la personne elle-même qui y allait, il n'y avait pas un ministre quelque part du baptême, alors que le baptême de Jean-Baptiste, c'est lui qui baptise, donc il y a bien quelqu'un d'extérieur et les personnes reçoivent ce baptême, donc il y a ce côté reçu qui est assez différent de ce qui pouvait se passer par ailleurs. Donc c'est l'idée que c'est un don de Dieu. Il s'adresse à tous, donc ça c'est important aussi, mais il ne marque pas le début d'une communauté particulière. On a des disciples du Baptiste qui ont survécu, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une communauté de Jean-Baptiste, de Jean le Baptiste. Voilà, ça s'est pas fait. Pendant un moment, il y avait et le baptême de Jean et le baptême institué par Jésus. On verra un petit peu plus loin. Il y a eu ce baptême de Jean le Baptiste pendant un moment, mais après, il n'y a pas eu de naissance d'une communauté ou d'une. Ça ne faisait pas marquer l'entrée dans une communauté. Ensuite, il n'est pas rituel. Il se passe au désert. On est concrètement, on est loin du temple, loin du culte. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de prémices ou de choses comme ça. Voilà, il n'y a pas tellement de paroles. Il n'y a pas de tas de gestes, de tas de signes. Concrètement, les gens recevaient de l'eau, se plongeaient dans le Jourdain. Et voilà. Donc, on n'a pas un contexte rituel ou ritualisé pour ce baptême. Par contre, le lieu du Jourdain est quand même symbolique, puisque c'est celui de l'entrée dans la terre promise du peuple juif. Et puis, il y a aussi tout le rapport avec l'histoire d'Élie et d'Élisée. Donc, c'est un lieu qui est pas neutre, quoi, qui signifiait l'entrée du peuple après le désert dans la terre promise. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de connotations. De plus, c'est un baptême de pénitence en vue de la rémission des péchés. Donc, en grec, je vous ai mis ce qui signifie aussi « pour ». Donc, c'est pas très clair et les pères de l'Église sont demandés si le baptême de Jean était déjà comme une remise des péchés ou si c'était juste un baptême pour marquer le fait qu'on cherchait à se convertir et que donc on allait accueillir les paroles de Dieu. En tous les cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas la grâce et donc on n'a pas un vrai baptême au sens de notre baptême à nous, quoi, le baptême catholique. Donc le baptême de Jean, c'est une figure, et il y a plein de choses qui ont été qui sont incluses dans notre baptême, mais ce n'est pas l'exhaustivité du baptême institué par Jésus. Oui.
Le baptême, quand tu parles de ça, là je vois que Jean-Baptiste, c'est lui le premier qui a commencé à baptiser les autres, les gens. Mmh. Jésus après, mais pourquoi Jésus l'a été baptisé alors qu'il n'a fait aucun péché?
Très belle transition. Donc nous arrivons au baptême de Jésus.
À 30 ans, il a été baptisé. C'est ça que je. Parce qu'à la messe, je l'ai écouté ce dimanche.
Bah oui, c'était hier.
Voilà. Pourquoi à 30 ans?
Alors, donc pour le baptême de Jésus, déjà, il s'est soumis volontairement au baptême de Jean, qui était destiné aux pécheurs, alors qu'il ne l'était pas, comme tu l'as très justement dit. Il dit à Jean qui refuse de le baptiser au début, en lui disant que comment moi je vais te baptiser alors que toi tu es ce que tu es. Il dit c'est pour accomplir toute justice. Donc il y a quelque chose de. C'est aussi un événement qui est dans les quatre évangiles, sous des formes très très proches. Donc c'est aussi, il y a quelque chose autour de il convenait que Jésus se fasse baptiser. Alors la première chose du baptême de Jésus, c'est que c'est pas tant justement un baptême de conversion que en fait une manifestation de la Trinité, une manifestation de Jésus, de la mission de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Donc en fait on est d'abord dans une théophanie et pas tant dans une préfiguration du baptême. Donc c'est le baptême de Jean est le prétexte pour que on voit, et c'est matériel, que, et d'ailleurs ça a été annoncé par Jean le Baptiste, que la colombe vient comme l'esprit, vient se poser comme une colombe sur Jésus. Et puis il y a la voix du Père qui lui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie ». Donc c'est d'abord une manifestation de la Trinité, en fait, et quelque part c'est l'inauguration de la mission de Jésus. puisque c'est le moment où il passe justement de la vie cachée à la vie publique, où il va commencer sa mission. Donc c'est le début de la mission. Donc en fait, ce baptême, il n'est pas tant un baptême de conversion qu'une manifestation de la Trinité et de la mission de Jésus, et du fait que dans ce baptême, on a Dieu, la divinité, le divin, qui vient en l'homme et qui vient prendre toute la création. C'est très intéressant, et c'est un des commentaires des pères de l'Église sur le baptême, que le ciel s'ouvre, et donc le ciel qui s'était fermé quand Adam a péché et qu'on lui a fermé le ciel, donc c'est avec les gardiens et les chérubins, enfin le paradis en l'occurrence, mais on va dire que c'est la même chose. Et là, le ciel s'ouvre, voilà. Et donc de nouveau, il peut y avoir un dialogue entre Dieu et l'homme, et il y a ce ciel qui est ouvert et qui va rester ouvert. De plus, le Père révèle son Fils bien-aimé, donc c'est d'abord évidemment Jésus en qui il trouve toute sa joie, mais ça préfigure aussi, mais après la Passion, nous serons, quand on est baptisé et on devient enfant de Dieu par Jésus. Voilà, donc nous aussi on pourrait être appelés fils et filles bien-aimés, évidemment pas avec un grand F. Voilà, et on a la visite du Saint-Esprit qui est aussi ce qui se passe pendant le baptême. Donc finalement, on a un baptême de Jésus qui est fait par Jean le Baptiste, mais qui n'est pas du tout commun avec les autres baptêmes que Jean le Baptiste a fait, puisqu'il n'y a pas une question de rémission de péché, ni de conversion. Et c'est plutôt l'inauguration de la mission de Jésus. Et du coup, c'est tout ce mouvement-là qui fait qu'après, le baptême, il va récapituler tout ça, notre baptême va récapituler tout ça, et en nous faisant passer par la mort et la résurrection de Jésus, la prise de l'Esprit-Saint, pour devenir enfant de Dieu. Donc finalement, le baptême du Christ, ce n'est pas exactement non plus notre baptême, et ce n'est pas le baptême de Jean. D'abord parce que c'est le Christ, donc c'est un baptême spécifique. Ensuite, on parle, alors c'est très curieux, dans Jean, on l'a eu en samedi, là, c'était l'Évangile. Donc Jean-Baptiste, il annonce que si lui baptise dans l'eau, il vient quelqu'un après lui qui est plus puissant que lui et qui baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Donc là, il annonce bien un futur baptême comme nous on le reçoit, l'Esprit Saint et le feu c'est aussi l'Esprit, une autre façon de voir l'Esprit Saint. Il annonce comme une action en fait du Messie qui va venir purifier le peuple d'Israël. Voilà, ce baptême dans le feu, c'est aussi l'idée de la purification et de traverser le monde du péché vers le monde des justes. Jésus, en fait, il a baptisé lui-même. Donc, on a la phrase de Jean. Alors, attendez, je me suis perdue dans mes phrases. Voilà. Jean 3, 22. Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Donc, en fait, Jésus, il a baptisé. Juste après, en Jean 4, 1, 2, c'est très peu de temps après, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Donc un peu comme si Jésus, avant même sa passion, avant même qu'il ait dit « Allez de toutes les nations baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », eh bien il apprend à ses disciples comment baptiser. Alors on ne sait rien de ce baptême, hein. On a ces deux phrases-là et c'est tout. Donc, on ne sait pas du tout ce que c'était que ce baptême, mais il y a quelque chose de cette, pas cette tradition, mais de cet exercice du baptême que Jésus apprend à ses disciples. Et c'est corrélé avec « faisait des disciples ». Donc, Jésus, il a cette idée d'une communauté et effectivement de créer une nouvelle alliance. Enfin, voilà. Donc, c'est pas juste un baptême de conversion individuelle, mais il a cette dimension beaucoup plus communautaire que n'avait pas le baptême de Jean-Baptiste. Alors, ensuite, il y a le très important sur le baptême, il y a le très important entretien avec Nicodème. Donc, on est en Jean toujours. C'était juste avant la phrase que je vous ai lue tout à l'heure sur Jésus-Baptiste, pardon. Donc tout le thème de l'entretien entre Nicodème, qui est un riche juif et qui s'adresse à Jésus et ils discutent ensemble, c'est la nouvelle naissance. Voilà, donc c'est toute l'idée qu'il faut naître de nouveau ou naître d'en haut à nos thèmes. Et cette nouvelle naissance se distingue de la naissance charnelle en ce qu'elle a lieu dans l'esprit et qu'elle produit donc un être spirituel profondément libre par rapport aux lois de ce monde promis à la mort. Et pourtant, elle n'est pas invisible. On renaît de l'eau, élément visible, et de l'esprit, élément invisible. Donc il y a toujours il y a l'association entre les deux. Et donc elle annonce cette nouvelle naissance. Et Jésus est très explicite avec Nicodème. Il faut naître d'en haut. Et Nicodème, il dit, mais je ne comprends pas. Moi, je suis déjà née du ventre d'une femme. Qu'est-ce que ça veut dire naître d'en haut? Enfin, il pose plein de questions. Et c'est pour ça que Jésus creuse en disant, voilà, il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Et donc, il y a vraiment cette dimension qu'il y a un acte particulier à faire pour aller un cran plus loin dans cette nouvelle naissance. Et puis, évidemment, il y a la finale de Saint Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la seule mention dans tous les évangiles, partout d'ailleurs, qu'il y a la Trinité, les trois personnes divines qui sont égales avec le « et » du Fils et du Saint-Esprit. Donc on est vraiment dans le « et » d'égalité. Donc c'est un des endroits où il y a la manifestation de la Trinité et l'égalité entre les trois personnes divines. Elle est aussi, c'est à l'aide de toutes les nations. Donc là, on a le début, c'est pas seulement le peuple juif, c'est pas la nouvelle alliance comme la circoncision, on est vraiment pour toutes les nations, donc pour tout le monde. Et puis, c'est les apôtres qui doivent y aller, quoi. Enfin, voilà, faites des disciples, donc il faut y aller. Et c'est pour faire des disciples. Donc, c'est pour créer quelque part la communauté du peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu. Alors, dans la première communauté chrétienne, donc dans Acte, il y a plusieurs mentions. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas très... Ça pose beaucoup de plein de questions, en fait. Les mentions sur le baptême dans les actes ou même dans les évangiles, c'est pas explicite. Hein. Mais on l'avait dit quand on avait travaillé sur en quoi Jésus a institué les sacrements. Voilà, il n'a pas explicitement dit, voilà, petit 1, faudra faire ça, petit 2, faut faire ça, qui est éligible, qui est ministre. Enfin, il n'a pas du tout légiféré Jésus. De toute façon, il est venu vivre et accomplir. Et donc, il donne des pistes, mais après, il y a des disciples qui ont dû s'approprier ça. Et donc, on a un premier discours dans Actes 2, 38. Donc, c'est juste après que Pierre ait parlé. Donc, on est juste après la Pentecôte. Hein. Repentez-vous et que chacun d'entre vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Donc, on a quand même tous les éléments. On pourrait se croire que c'est un baptême juste au nom de Jésus-Christ. Mais non, il y a quand même l'Esprit qui leur sera donné. Donc, on est bien trinitaire. Et puis, on a la référence à la mission de Jésus, au nom de Jésus. Enfin, voilà, donc il y a l'effet de la rémission des péchés, qui est corrélé au don du Saint-Esprit, donc ça va ensemble. Ah, donc ça, c'est la première mention du baptême, avec des éléments qui sont déjà ce que sera notre baptême. Dans Actes 8, 15, 16, donc, les apôtres Pierre et Jean viennent en Samarie, où le diacre Philippe a déjà fait des baptêmes. Ils prièrent sur eux afin que l'Esprit-Saint leur fût donné, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc là, c'est comme si le diacre Philippe, il n'avait pas bien suivi le cours sur le baptême. Et donc, il n'en avait fait qu'un bout, il n'avait fait qu'au nom de Jésus. Donc, c'était un baptême entre deux, on va dire. Il n'est pas complètement abouti. Et donc, Pierre et Jean, ils corrigent ça et ils rajoutent ce qui va bien pour que ça soit un vrai baptême. Donc, ça s'est étiré un peu dans le temps. Mais finalement, on a le baptême dans toutes ses dimensions. Et d'ailleurs, ça a été utilisé par certains pour dire qu'on pouvait très bien dissocier le baptême de la confirmation, même si on verra tout à l'heure que ce n'est pas exactement vrai, parce que dans le baptême, notre baptême, on a déjà l'esprit. Donc, on n'a pas une dissociation avec le baptême, qui sera un baptême typiquement de, comme Jean le Baptiste, qui est plutôt pour la rémission des péchés, une page nouvelle, etc. Et puis après, la confirmation qui donne le Saint-Esprit. Non, dès le baptême, on a le Saint-Esprit. On verra après ce que fait la confirmation. Donc, ce n'est pas exactement ça, mais enfin, il y a déjà cette... ça chemine. Et Acte 19, 1, 7, encore un petit peu plus tard, Paul trouve à Éphèse des disciples qui ne connaissaient encore que le baptême de Jean. Donc là, pour le coup, ils n'ont eu que le baptême de Jean-Baptiste. Donc il y a quand même du coup dû persévérer, puisque là, on est à Éphèse, donc on n'est pas si près que ça. Enfin voilà, c'est quand même pas au même endroit. Donc il y a eu des... Voilà, on a fait parler du baptême de Jean. Mais ils ignoraient l'existence du Saint-Esprit après avoir été instruits par Paul. Donc ça, c'est important aussi sur le baptême, c'est on instruit, voilà. On a un peu l'impression, quand on lit tout ça, qu'il suffit que, pouf, on soit plongé dans l'eau, et puis après, ils ont la science infuse et ils connaissent tout sur tout. Non, là, Paul les instruit. Et puis, connaissant Paul, ça devait pas être juste deux minutes, hein, parce qu'il a l'air assez... Il devait faire des instructions, ça devait durer un peu, ça devait être de la vraie instruction. Ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur a imposé les mains, l'Esprit-Saint vint sur eux. Donc on a toujours cette concomitance de Jésus et d'Esprit-Saint. Ça ne veut pas dire que le Père est oublié, hein, mais bon, les formules sont apportées comme ça. Alors, la nécessité du baptême et de la confirmation, donc là je vous ai mis un grand passage du catéchisme de l'Église catholique qui est quand même très explicite sur le thème du baptême, puisque c'est dans sa structure de déroulé du catéchisme, il y a quand même les sept sacrements qui sont approfondis un par un. Donc si vous voulez plus d'informations, avec plein de références, plein de passages de Père de l'Église et d'autres, c'est quand même très intéressant. Donc là je vous en ai mis un grand passage, et puis je vais souligner certains aspects. Donc c'est l'idée que le baptême est nécessaire pour le salut. Donc c'est pas facultatif. Jésus il a dit allez de toutes les nations, faites des disciples, c'est de l'impératif, baptisez-les. Voilà, c'est pas optionnel. C'est pas ce serait bien si on pouvait les baptiser. Non, c'est nécessaire. Voilà. Donc il y a ce côté impératif de la consigne de Jésus parce que c'est nécessaire au salut. Et c'est joint avec ce qu'il a commandé à ses disciples. En fait, il a demandé d'annoncer l'évangile et de baptiser toutes les nations. On verra aussi qu'il a demandé de guérir, mais en tout cas, là, il y a l'annonce et la parole en même temps que le baptême. Voilà. Et les deux vont ensemble, et c'est très important dans la liturgie du baptême et de tous les sacrements d'ailleurs, mais particulièrement du baptême. Donc le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. Et donc l'Église, elle dit explicitement, hors de l'Église, point de salut, quand elle dit ça, ça veut dire que si on n'est pas baptisé, bah, point de salut. Alors, ce n'est pas qu'elle dit « Dieu ne fera pas autrement », mais elle dit qu'elle, elle connaît, et parce que Jésus lui a confié cette mission-là, elle ne connaît qu'une seule manière de conduire au salut, c'est de donner le baptême. Voilà. Et puis d'enseigner enfin, tout ce qui va autour, hein, ce n'est pas juste un acte miraculeux. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est pas il n'y a pas d'autre moyen, et elle reconnaît, vous le verrez un peu plus tard là, dans le texte. Je vais finir juste de faire le paragraphe et après je veux bien la question parce que probablement qu'il y a la réponse un peu plus loin ou pas, et on verra à ce moment-là. Et donc l'Église, elle, pour elle, c'est vraiment le moyen pour entrer dans l'entrée dans la béatitude éternelle. Et donc c'est une de ses missions premières, c'est vraiment de faire des baptisés, de faire renaître de l'eau et de l'esprit. Et donc si Dieu, Jésus, a lié le salut au sacrement du baptême, c'est pas pour ça que lui, il est lié à ce qu'il dit, et donc il peut très bien donner le salut d'une autre façon, et c'est à la grâce de Dieu, et c'est son problème. Nous, l'Église, et nous sur Terre, nous, on doit annoncer l'Évangile et faire baptiser des gens, enfin, que des gens demandent le baptême et soient baptisés, voilà, pour faire grandir le salut et le peuple de Dieu, et faire accéder le salut à chacun d'entre nous. Donc l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'elle dit finalement, il y a le baptême rituel, donc le baptême avec l'eau et qu'on connaît, nous. Mais un martyr, finalement, c'est une autre forme de baptême.
C'est le baptême du désir ?
Non, alors là, c'est vraiment le baptême de martyr, donc c'est un baptême de sang qui est encore plus proche et encore plus consonant avec notre baptême, qui est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Le martyr, c'est exactement ce qui se fait et en vrai, voilà. Donc, c'est pas juste symbolique, c'est le subit dans sa chair. Donc, c'est un baptême de sang. Après, on a aussi le baptême de désir, qui est que tout homme qui ignore l'évangile du Christ, auquel on n'aurait pas bien fait notre boulot, on l'aurait pas annoncé, par exemple, il peut très bien, finalement, voir, avoir quelque chose de cette révélation et avoir un baptême de désir, quelque part, même s'il n'y a pas eu de vrai baptême. Et donc, c'est ce qui s'explique aussi pour les enfants morts sans baptême, où l'Église les confie à la miséricorde de Dieu et ne se prononce pas, quoi, en fait. Voilà. Donc, on ne sait pas. Mais c'est à Dieu d'agir. En tout cas, l'Église, elle a fait ce qu'elle devait. Et elle ne peut que le confier au Christ. Nous permettre d'espérer qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. D'autant plus pressant est aussi l'appel de l'Église à ne pas empêcher les petits-enfants de venir au Christ par le don du Saint-Baptême. Ça expliquait aussi ça, pourquoi est-ce qu'on a baptisé tout bébé et quelquefois vraiment tout juste né, quoi. Parce qu'on se disait que c'était, on n'a aucune raison de priver quelqu'un et un petit enfant de ce salut, même si Dieu peut agir autrement, mais on n'a pas à présupposer ça, on a à faire notre travail et donc le baptême est nécessaire, tout le baptême des enfants. Et là, on revient sur la notion que le baptême, il est reçu, donc j'ai pas besoin d'avoir... d'être d'accord, de cocher toutes les cases, de réciter tout le catéchisme de l'Église catholique. Ben, finalement, le baptême, c'est d'abord Dieu qui vient répandre ses grâces sur nous, quoi. Voilà, donc c'est d'abord ça, c'est d'abord un don. Même si on verra qu'il y a une forme de réponse dans le baptême. Alors on dit que c'est les sacrements d'initiation parce que finalement et qu'ils vont ensemble. Là, si je repars du baptême des adultes, en fait, dans la nuit de Pâques, on a à la fois le baptême, on a la confirmation et on a l'Eucharistie. Voilà. Et donc quelque part, ces trois sacrements d'initiation, on a une unité de temps. L'idée, c'est que cette initiation, elle est complète si on a tout ça, quoi. C'est l'équipement complet, je dirais. Voilà, pour rentrer dans la grâce baptismale et dans la vie des baptisés. Même quand on le donne séparément, en fait, il faut expliquer ce lien entre ces trois sacrements. Notamment quand on a le sacrement de la confirmation. Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit-Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Je prends la question si elle est toujours là.
Oui, c'est plutôt une précision. Le hors de l'Église, point de salut, est une formule de Tertullien et qui se limite en fait uniquement à une hérésie du IVe siècle. Alors je ne sais pas si c'est les pélagismes, le donatisme, ou pas.
Quel c'était ?
Où Tertullien a dit hors de l'Église, point de salut dans cette hérésie-là. Et on a trop tendance à ne prendre que le début de la phrase.
Mais en fait,
dans l'Évangile, le Christ dit ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas sauvés. Enfin, voilà, c'était juste une précision.
Mais en fait, elle a été réutilisée après dans des contextes plus larges, cette phrase qui était effectivement initialement par rapport à une hérésie. Et elle s'entend dans ce sens-là, dans le sens que Jésus nous a confié de baptiser et que c'est ça qui apportait le salut. Et donc, on doit faire ça. Après, hors du baptême, c'est à Dieu d'agir, quoi. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas l'entendre au sens...
Moi, je l'ai vu déformé.
Oui, c'est bien sûr.
Jusqu'au
c'est,
concile, c'est pour ça que je le dis. L'Église, point de salut. Depuis le concile, on dit ça a sauté, l'histoire. Dans l'islam, c'est ils sont encore hors de l'islam, point de salut. Enfin, la comparaison. Donc, c'est quand même... il faut savoir délimiter, même si elle peut s'appliquer dans d'autres circonstances. Mais rappeler, parce que c'est vite taquillard.
Ça, c'est sûr.
Maxi, quoi.
Mais bon, c'est quand même cette affirmation, effectivement, si on n'a pas le baptême, le salut, il n'est pas acquis, quoi. Voilà, enfin, on ne sait pas.
Parce que de nos jours, il y a plein de gens pas baptisés.
Oui.
Et en fait, le baptême, ça n'empêche pas d'aller en enfer si on fait n'importe quoi.
Parce que... C'est pas une question juste d'acte bon ou pas bon.
Baptisé.
Probablement que oui.
On ne sait pas s'il est en enfer ou en paradis.
Le baptême, après, il faut en vivre. Donc après, il y a un jugement sur les œuvres qu'on fait et la façon dont on vit. Ça, c'est une autre chose. Mais l'idée, c'est de dire, si on n'entre pas... Le baptême, c'est une porte d'entrée vers le salut. Et donc, si on n'a pas cette porte d'entrée, peut-être qu'on aura le salut d'une autre façon, parce que le Christ se manifestera, parce qu'il se passera autre chose, et à la grâce de Dieu, quoi. Enfin, c'est à Dieu d'agir. Mais quelque part, on n'est pas dans le bon... on n'a pas pris le bon choix. Enfin, voilà, on n'a pas passé la porte, quoi. Voilà.
C'est la voie normale pour aller au salut.
Voilà, mais c'est pas pour ça que le salut est automatique. C'est pas « je suis baptisé, donc je vais au paradis, j'ai le salut ». C'est pas non plus d'automatisme. Mais c'est une porte d'entrée.
Voilà. Il y en a qui l'ont et qui n'iront pas le salut.
Tous les cas. D'accord.
Moi, je vois le baptême, comme elle a dit, c'est une porte d'entrée, mais avec les règles de vie. Moi, la règle de vie, c'est les commandements, parce qu'il faut les suivre. Si on ne suit pas les commandements, tu risques d'aller en enfer. Parce que déjà, il nous donne vraiment les règles de vie. Oui. Voilà, il y a le baptême. Il y a aussi
après.
Les commandements, il faut les suivre. Si tu ne suis pas les commandements, c'est tout à fait normal. Tu fais du péché, etc. et tu vas aller au paradis.
Ça va être le cours de la fois d'après sur les pénitences. C'est exactement ça. C'est qu'après, il faut pratiquer. Mais là, on est sur la porte d'entrée, effectivement. On est au seuil. Donc, on s'arrête au seuil. Ce qui est intéressant dans cette entrée dans l'Alliance, c'est qu'on reprend l'idée de la nouvelle Alliance. Hein. Et donc, c'est pas une seule dimension individuelle. Donc, c'est pas juste mon salut à moi, pour moi, mon petit machin. Mais c'est aussi le salut de, au sens que ça concerne tout le corps de l'Église et que finalement on agrège des membres au corps de Christ et que donc quelque part c'est aussi le salut de l'humanité en fait. Voilà. Donc c'est jamais un événement, ça je vous l'avais dit au début dans les sacrements, c'est jamais que personnel, c'est pas d'abord, enfin c'est et personnel et collectif communautaire. Voilà, toujours, et que c'est important du coup de, que ces sacrements soient célébrés publiquement. Voilà, et pas trop en mode tout privé. Bon, les baptêmes où on est, les baptêmes d'enfants qui se font après la messe, je trouve que c'est quand même bête. Voilà, c'est mieux quand c'est pendant la messe. Juste parce qu'il y a toute la communauté, hein, c'est pas... Voilà. Ouais. Mais après, pratiquement, ça peut être différent. Mais en tout cas, sur le sens, ça a beaucoup plus de sens de le faire au sein de la communauté et que la communauté l'accueille. Voilà, tac, tac. Bon. Il faut savoir que côté la confirmation, comme elle est donnée par l'évêque, ça a toujours eu une dimension très communautaire. Parce que du coup, ben, l'évêque, en général, il en faisait plusieurs. Donc, c'est tout de suite toute une grande dimension. Et puis, c'est toujours connecté avec la messe.
Il l'a fait en plusieurs fois.
Pardon ?
Sauf l'année dernière, il l'a fait en plusieurs fois.
Oui, non, mais il peut faire en plusieurs fois. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et c'est pas, voilà, c'est pas privé. Hein. C'est l'évêque. Donc, voilà. Alors, comment concrètement ça se passe ? Alors, déjà, je vous invite à lire. Il y a énormément de catéchèses baptismales des pères des 4e et du 5e siècle. Je pense qu'ils en ont tous écrit. Hein. On a Saint Ambroise, on a Saint Cyril de Jérusalem, on a Saint Grégoire de Nations, on en a plein qui ont bien écrit. Saint Augustin a écrit aussi beaucoup. En fait, à chaque fois, c'est aussi l'idée qu'on a des catéchumènes qui se préparent pour la vigile pascale. Donc, certains pères de l'Église expliquent avant la vigile pascale qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ces catéchèses sont sur deux aspects. Un aspect qui est de retracer toute l'histoire du salut et donc de donner tout le contenu, mais aussi d'expliciter qu'est-ce qui va se passer, les rites, en fait, le rite du baptême et la confirmation et l'Eucharistie. Et puis, il y a d'autres pères de l'Église qui sont plutôt... on laisse découvrir la partie rite. Alors, la catéchèse, ça, c'est sûr qu'elle est avant. De toute façon, ça, c'est toujours pas... Il y a une grande catéchèse avant. Mais, par exemple, pour Cyril de Jérusalem, qu'on va particulièrement regarder, lui, il dit au contraire, il faut que à la vigile pascale, que le catéchumène découvre un peu et vive le rite. Et puis après, par contre, il prend toute la semaine d'après, la semaine l'octave de Pâques, pour expliquer... aux néophytes, bah, qu'est-ce qui s'est passé, reprendre tel aspect, dire voilà qu'est-ce que ça voulait dire, voilà pourquoi on a fait comme ça, etc. Donc il y a les deux possibilités. En tout cas, c'est très intéressant. Et ils connectent énormément dans toutes ces catéchèses. Ils sont vraiment entre le parallèle entre l'ancienne alliance, la passion, l'exode, tout le lien avec l'histoire du peuple de Dieu et puis qu'est-ce qui se passe pendant le baptême. Donc il y a énormément de parallèles. Notamment, je vous donne un exemple, les trois immersions, puisqu'on doit immerger trois fois le baptisé. Alors, immerger complètement si on est en baptême d'immersion, ou en tout cas, on lui fait couler trois fois de l'eau sur la tête si c'est un baptême avec juste de l'eau sur le front, qui symbolise les trois jours au tombeau de Jésus. Donc, il y a plein de parallèles, plein de symbolismes et plein de... voilà, pour vraiment montrer toute la richesse de ces sacrements. Alors, il y a un très joli mot qui s'appelle mystagogique, je trouve magnifique. Voilà, donc je vous l'ai mis. Dans ces catéchèses mystagogiques, donc c'est à 19 à 23, Cyril de Jérusalem retrace pour les néophytes, donc puisque lui, il est après, tout ce qui s'est passé pour eux dans la nuit pascale. Et donc, il fait quand même quatre catéchèses hein, sur le sujet, avec les quatre temps, grands temps. Et à chaque fois, il fait un parallèle avec des textes, soit des psaumes, soit des textes d'épîtres du Nouveau Testament. Voilà. Et c'est très important de montrer la parole de Dieu, puisque pendant tout le baptême, de toute façon, il y a énormément de liens avec la parole, et elle est préparée, le baptême est préparé par la parole et l'instruction. Et Cyril de Jérusalem insiste sur les dispositions intérieures afin que la vie quotidienne soit conforme à la foi et fleurisse en actions concrètes. Donc il y a l'avant des sacrements qui est préparé par la parole, l'enseignement, la catéchèse, et puis l'après du sacrement qui, comme tu disais tout à l'heure, Jeanne, si on ne fait pas d'action concrète et qu'on ne vit pas de ce baptême, voilà, ça ne débouche sur pas grand-chose. On garde la grâce, mais il ne va pas avoir beaucoup de fruits. Alors, les quatre grands temps du baptême, proprement dit, c'est l'entrée du baptistère. Donc là, en général, c'est connecté. Enfin, non, c'est lui, c'est ce que propose Cyril. Là. Connecté à la lecture de la première épître de Pierre, que je vous invite à lire au passage. Et c'est toute la thématique autour. On se tourne vers le vers l'Occident pour renoncer à Satan. Donc c'est tout le la partie où on renonce à Satan, tourné vers l'Occident qui est le couchant de soleil, donc la fin de du vieil homme, en fait, quelque part. Et puis après, on se tourne vers l'Orient pour prononcer le credo. Et l'Orient étant la lumière qui se lève, la nouvelle naissance.
Chez vous, c'est dans l'autre sens.
Ah oui, alors c'est... Alors là, on est très, évidemment, dans les baptistères, en plus. Alors déjà, nous, on n'a pas toujours des vrais baptistères. Là, c'est des baptistères séparés. Donc évidemment, on est dans des contextes un peu différents. Mais en tout cas, la symbolique est très intéressante de se dire, d'un côté, on renonce à Satan, avec toutes les phrases qui sont restées, d'ailleurs. Toutes ses œuvres, ses fastes et son culte. Et puis, on se tourne vers le credo pour... On dit le credo vers l'Orient, vers la lumière. Ensuite, on a le baptême, proprement dit. Donc là, en lien avec, il propose de lire l'épître aux Romains, enfin Romains 6, 3, 14. Et là, il y a plusieurs actions. Il y a la déposition des vêtements. Donc là, l'idée, c'est se dépouiller du vieil homme et d'être nu comme le Christ sur la croix. Donc on a la même thématique. Ensuite, il y a une onction d'huile, alors qu'il ne se pratique plus, l'onction d'huile exorcisée sur tout le corps. L'idée, c'est un peu comme les lutteurs qui vont devoir lutter, qu'on enduit d'huile parce que ça va être plus compliqué pour l'adversaire pour les attraper. Donc l'idée, c'est on enduit d'une huile qui est censée protéger du malin et que avec cette idée de que l'adversaire, le malin en l'occurrence, puisse pas attraper le voilà. Donc il y a cette idée de protection. Et donc, on enduisait le corps entier, vous imaginez. Ensuite, on le conduisait vers la piscine, donc comme le Christ de sa croix au tombeau. On plonge donc trois fois en immergeant pour symboliser les trois jours du Christ au tombeau, en mort symbolique. Puis le vêtement blanc, on le revêt d'un nouveau vêtement, donc c'est la nouvelle, le revêtu le Christ, donc il est... Il est de nouveau la nouvelle naissance. Et puis enfin, le cierge allumé au cierge pascal, qui signifie que le Christ a illuminé le néophyte. Donc là, la plupart des choses se retrouvent dans nos baptêmes. Hein. Il y a juste le côté huile. Parce que là, on ne parle pas de l'huile de confirmation. On est bien sur l'huile, ni de l'huile qui après va avoir lieu, la chrismation. On est vraiment sur une huile qu'on ne fait plus maintenant à l'heure actuelle dans nos baptêmes. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Alors probablement qu'en Orient, ils le font. Voilà. Alors sûrement...
Le bébé tout nu, là, étendu.
Voilà, exactement.
Et les diaconesses, quand on parle des diaconesses, baptisées, parce que les femmes...
Bah oui, quand même, bah oui, oui.
Ne pouvaient pas...
Exactement. C'est pour ça qu'il y avait la partie femme, et puis après, on faisait les hommes. Et c'est pour ça que dans le baptistère, il n'y avait pas tout le peuple de Dieu, en fait. Le peuple accueillait après, puisqu'après avoir été baptisé dans le baptistère, en fait, il rentrait dans l'église, et c'était là où la communauté chrétienne l'accueillait, en fait. Donc ça avait du sens aussi, ce baptistère qui est en dehors de l'église. Dans un autre bâtiment. Il y a aussi un rite dont je n'ai pas parlé là, mais qui était de souffler, comme l'idée du souffle de l'esprit, puisqu'il faut renaître du souffle, de l'esprit, pardon, et de feu. Et donc, on soufflait sur la personne pour qu'elle ait cette idée de nouveau souffle. Voilà. La chrismation, donc ça, c'est le parallèle avec l'épître, première épître de Saint Jean sur le point. Donc c'est devenir des Christ marqués du Saint-Esprit, comme le Christ remonté des eaux du Jourdain, sur lequel le Saint-Esprit vient reposer. Donc là, on a le parallèle avec le baptême du Christ, ou Jésus de Nazareth, que Dieu chrisma du Saint-Esprit, dit dans Actes. Alors, je vous ai mis un petit passage de Cyril de Jérusalem. « Garde-toi de supposer que ce baume ne soit rien de plus. » De même, en effet, que le pain eucharistique après l'invocation du Saint-Esprit n'est plus un pain banal, mais le corps du Christ. Ainsi, ce saint baume, après l'invocation, a cessé de n'être que lui-même, d'être comme on pourrait dire commun. Il est don gracieux du Christ et de l'Esprit-Saint. Donc, la divinité, par sa présence, le rend efficace. Tel est le baume dont on te chrisme symboliquement sur le front et aussi sur les divers organes des sens. Tandis que le corps est enduit d'un baume visible, l'âme est sanctifiée par l'Esprit-Saint et vivificateur. Donc c'est vraiment un baume qui illustre le côté, le Saint-Esprit qui vient sur le baptisé. et qu'on applique, et là, je suis sûre que vous vous rappelez dans les baptêmes, mais on l'applique sur la bouche, les oreilles, le cœur. Voilà, c'est l'idée que tous les sens soient imprégnés, puisqu'après, il faudra porter du fruit, et donc que toute notre vie soit imprégnée de ça. Voilà, et puis après, il y a la communion. Alors là, je n'ai pas creusé, puisqu'on en parlera quand on fera l'Eucharistie. Alors, évidemment, en amont de ce baptême, de ces quatre étapes-là, il y avait une suite de rites préparatoires qui jalonnent le chemin de la préparation catéchuménale.